Lucien Levesne, chapitre 66. Lucien avait encore la mauvaise habitude et la haute imprudence d'être naturel dans l'intimité, même quand elle n'était pas amenée par l'amour vrai. Dissimulé avec un être avec lequel il passait 4 heures tous les jours, eût été pour lui la chose la plus insupportable. Ce défaut, joint à sa mine naïve, fut d'abord pris pour de la bêtise, et lui valut ensuite l'étonnement et puis l'intérêt de Madame Grandet, ce dont il se serait bien passé. Car s'il y avait dans Madame Grandet la femme ambitieuse, parfaitement raisonnable, soigneuse de la réussite de ses projets, il y avait aussi un cœur de femme qui jusque-là n'avait point aimé. Le naturel de Lucien était en apparence bien ridicule auprès d'une femme de 26 ans, envahi par le culte de la considération et de l'adoration du privilège qui procure l'appui de l'opinion noble. Mais par hasard, de la part d'un homme dont l'âme naïve et étrangère aux adresses vulgaires donnait à toutes les démarches une teinte de singularité et de noblesse singulière, ce naturel était ce qu'il y avait de mieux calculé pour faire naître un sentiment extraordinaire dans ce cœur si sec jusque-là. Il faut avouer qu'en arrivant à la seconde demi-heure d'une visite, il parlait peu et pas très bien, et il n'osait pas se permettre de dire ce qui lui venait à la tête. Cette habitude, antisociale à Paris, avait été voilée jusqu'à cette époque de sa vie parce que, à l'exception de Madame de Chastelet, personne n'avait été intime avec Lucien, et de la vie, on ne l'avait vu prolonger une visite plus de 20 minutes. Sa manière de vivre avec Madame Grandet vint mettre à découvert ce défaut cruel, celui de tous qui est le plus fait pour casser le cou à la fortune d'un homme. Malgré des efforts incroyables, Lucien était absolument hors d'état de dissimuler un changement d'humeur, et il n'y avait pas, au fond, de caractère plus inégal. Cette mauvaise qualité, en partie voilée par toutes les habitudes les plus nobles et les plus simples de politesse exquise, données par une mère femme d'esprit, avait été jadis un charme aux yeux de Madame de Chastelet. Ce fut une nouveauté charmante pour elle, accoutumée qu'elle était à cette égalité de caractère. Le chef-d'œuvre de cette hypocrisie qui s'appelle aujourd'hui une éducation parfaite chez les personnes trop nobles et trop riches, et qui laisse un fond d'incurable sécheresse dans l'âme qui la pratique comme dans celle qui est sa partenaire. Pour Lucien, le souvenir d'une idée qui lui était chère, une journée de vent du nord avec des nuages sombres, la vue soudaine de quelque nouvelle coquinerie ou tel autre événement aussi peu rare, suffisait pour en faire un autre homme. Il n'avait rencontré dans sa vie qu'une ressource contre ce malheur, ridicule et si rare en ce siècle, de prendre les choses au sérieux. Être enfermé avec Madame de Chastelet dans une petite chambre, et avoir d'ailleurs l'assurance que la porte était bien gardée et ne s'ouvrirait pour aucun importun qui pût paraître à l'improviste. Après toutes ces précautions, ridicule, il faut en convenir, pour un lieutenant de lanciers, il était alors peut-être plus aimable que jamais. Mais ces précautions délicates et faites pour un esprit malade et singulier, il ne pouvait les espérer auprès de Madame Grandet, et elles lui eussent été importunes et odieuses. Aussi était-il souvent silencieux et absent. Cette disposition était redoublée par le genre d'esprit peu encourageant des personnes qui formaient la cour habituelle de cette femme célèbre. Cependant, on l'attendait dans ce salon avec anxiété. Pendant la première heure de cette soirée, qui faisait une révolution dans le cœur de Lucien, Madame Grandet avait régné comme à l'ordinaire. Ensuite, elle avait été en proie d'abord à l'étonnement, puis à la colère la plus vive. Elle n'avait pu s'occuper un seul instant d'un autre être que de Lucien. Une telle constance d'attention était chose inouïe pour elle. L'état où elle se voyait l'étonnait un peu, mais elle était fermement persuadée que la fierté seule ou l'honneur blessé était la cause unique de l'état violent où elle se voyait. Elle interrogeait avec un parler bref, un sein haletant et des yeux à paupières contractées et immobiles, et qui n'avaient jamais été en cet état que par l'effet de quelques douleurs physiques. Chacun des députés, des pairs ou des hommes mangeant au budget, qui arrivaient successivement dans son salon. Avec tous, Madame Grandet n'osait pas également prononcer le nom sur lequel toute son attention était fixée ce soir-là. Elle était souvent obligée d'engager ces messieurs dans des récits infinis, espérant toujours que le nom de « Monsieur le Veine, fils » pourrait se montrer comme circonstance accessoire. Monsieur le prince royal avait fait annoncer une partie de chasse dans la forêt de Compiègne. Il s'agissait de forcer des chevreuils. Madame Grandet savait que Lucien avait parié 25 louis contre 70 que le premier chevreuil serait forcé en moins de 21 minutes après la vue. Lucien avait été introduit en si haute société par le crédit du vieux maréchal ministre de la guerre. Aucune distinction n'était plus flatteuse alors pour un jeune homme attaché au gouvernement. On pensait beaucoup à l'utile. Or, quelle part au budget ne pouvait pas espérer d'ici à 10 ans l'homme qui y chassait, lui 10e avec le prince royal? Le prince n'avait voulu absolument que 10 personnes, car un des hommes de lettres de sa chambre venait de découvrir que monseigneur, fils de Louis XIV et dauphin de France, n'admettait que ce nombre de courtisans à ses chasses au loup. « Se pourrait-il, se disait Madame Grandet, que le prince royal eût fait dire à l'improviste qu'il recevait ce soir les futurs chasseurs au chevreuil ? Mais les pauvres députés et pairs qu'elle recevait songeaient au solide et étaient trop peu du monde avec lequel on essayait de refaire une cour pour se trouver au courant de ces choses-là. Après cette réflexion, elle renonça à savoir la vérité par ces messieurs. « Dans tous les cas, se dit-elle, ne devrait-il pas paraître ici, ou au moins écrire un mot? Cette conduite est affreuse. » 11 heures sonnèrent, 11h30, minuit. Lucien ne paraissait pas. « Ah ! Je saurais bien le guérir de ces petites façons-là !» se dit Madame Grandet hors d'elle-même. Cette nuit, le sommeil n'approcha pas de sa paupière, comme disent les gens qui savent écrire. Dévorée de colère et de malheur, elle chercha une distraction dans ce que ses complaisants appelaient ses études historiques. Sa femme de chambre se mit à lui lire les mémoires de Madame de Motteville, qui, l'avant-veille encore, lui semblait le manuel d'une femme du grand monde. Ses mémoires chéries lui semblèrent, cette nuit-là, dépourvues de tout intérêt. Il fallut avoir recours à ses romans, contre lesquels, depuis 8 ans, Madame Grandet faisait dans son salon des phrases si morales. Toute la nuit, Madame Trublet, la femme de chambre de confiance, fut obligée de monter à la bibliothèque, située au second étage, ce qui lui semblait fort pénible. Elle en rapporta successivement plusieurs romans. Aucun ne plaisait, et enfin, de chute en chute, la sublime Madame Grandet, dont Rousseau était l'horreur, fut obligée d'avoir recours à la nouvelle Héloïse. Tout ce qu'elle s'était fait lire dans le commencement de la nuit lui semblait froid, ennuyeux. Rien ne répondait à sa pensée. Il se trouva que l'emphase un peu pédantesque qui fait fermer ce livre par les lecteurs un peu délicats était justement ce qu'il fallait pour la sensibilité bourgeoise et commençante de Madame Grandet. Quand elle aperçut l'aube à travers les joints de ses volets, elle renvoya Madame Trublet. Elle venait de penser que dès le matin, elle recevrait une lettre d'excuse. « On me l'apportera vers les 9 heures, et je saurai répondre de bonne encre. » Un peu calmée par cette idée de vengeance, elle s'endormit enfin en arrangeant les phrases de son billet de réponse. Dès 8 heures, Madame Grandet sonna avec impatience. Elle supposait qu'il était midi. « Mes lettres ! Mes journaux ! » s'écria-t-elle avec humeur. On sonna le portier, qui arriva n'ayant dans les mains que de sales enveloppes de journaux. Quel contraste avec le joli petit billet si élégant et si bien plié que son œil avide cherchait parmi ses journaux. Lucien était remarquable pour l'art de plier ses billets, et c'était peut-être celui de ses talents élégants auquel Madame Grandet avait été le plus sensible. La matinée s'écoula en projets d'oubli et même de vengeance, mais elle n'en sembla pas moins interminable à Madame Grandet. Au déjeuner, elle fut terrible pour ses gens et pour son mari. Comme elle le vit gai, elle lui raconta avec aigreur toute l'histoire de sa lourdise auprès du maréchal ministre de la guerre. M. Leven ne la lui avait pourtant confiée que sous la promesse d'un secret éternel. Une heure sonna, une heure et demie, deux heures. Le retour de ces sons qui rappelaient à Madame Grandet la nuit cruelle qu'elle avait passée la mit en fureur. Pendant assez longtemps, elle fut comme hors d'elle-même. Tout à coup, qui l'aurait imaginé d'un caractère dominé par la vanité la plus puérile, elle eut l'idée d'écrire à Lucien. Pendant une heure entière, elle se débattit avec cette horrible tentation, écrire la première. Elle céda enfin, mais sans se dissimuler toute l'horreur de sa démarche. « Quel avantage ne vais-je pas lui donner sur moi? Et que de journées sévères ne faudra-t-il pas pour lui faire oublier la position que la vue de mon billet va lui faire prendre à mon égard? Mais enfin, dit l'amour se masquant en paradoxe, qu'est-ce qu'un amant? C'est un instrument auquel on se frotte pour avoir du plaisir. Monsieur Cuvier me disait, « Votre chat ne vous caresse pas, il se caresse à vous. » Eh bien, dans ce moment, le seul plaisir que puisse me donner ce petit monsieur, c'est celui de lui écrire. Que m'importe sa sensation? La mienne sera du plaisir, dit-elle avec une joie féroce. Et c'est ce qui m'importe. Ses yeux, dans ce moment, étaient superbes. Madame Grandet fit une lettre dont elle ne fut pas contente. Une seconde, une troisième, enfin elle fit partir la 7e ou 8e. Lettre. Mon mari, monsieur, a quelque chose à vous dire. Nous vous attendons, et pour ne pas attendre toujours, malgré le rendez-vous donné, connaissant votre bonne tête, je prends le parti de vous écrire. Recevez mes compliments. Augustine Grandet. Post-scriptum, venez avant 3 heures. Or, quand cette lettre, qu'on avait trouvée la moins imprudente et surtout la moins humiliante pour la vanité, partit, il était plus de 2h30. Le valet de chambre de Madame Grandet trouva Lucien fort tranquille à son bureau, rue de Grenelle. Mais au lieu de venir, il écrivit. « Madame, je suis doublement malheureux. Je ne puis avoir l'honneur de vous présenter mes respects ce matin, ni peut-être même ce soir. Je me trouve cloué à mon bureau par un travail pressé dont j'ai eu la gaucherie de me charger. Vous savez que, comme un respectueux commis, je ne voudrais pas pour tout au monde fâcher mon ministre. Il ne comprendra certainement jamais toute l'étendue du sacrifice que je fais au devoir en ne me rendant pas aux ordres de M. Grandet et aux vôtres. Agréez avec bonté les nouvelles assurances du plus respectueux dévouement. » Madame Grandet était occupée depuis 20 minutes à calculer le temps absolument nécessaire à Lucien pour voler à ses pieds. Elle prêtait l'oreille pour entendre le bruit des roues de son cabriolet que déjà elle avait appris à connaître. Tout à coup, à son grand étonnement, son domestique frappa à la porte et lui remit le billet de Lucien. À cette vue, toute la rage de Madame Grandet se réveilla. Ses traits se contractèrent et presque en même temps elle devint pourpre. L'absence de son bureau eût été une excuse. Mais quoi? Il a vu ma lettre et au lieu de voler à mes pieds, il écrit. « Sortez !» dit-elle au valet de chambre avec des yeux qui l'atterrèrent. « Ce petit sot peut se raviser. Il va venir dans un quart d'heure. » se dit-elle. Il est mieux qu'il voie sa lettre non ouverte. Mais il serait encore mieux, pensa-t-elle après quelques instants, qu'il ne me trouva pas même chez moi. Elle sonna et fit mettre les chevaux. Elle se promenait avec agitation. Le billet de Lucien était sur un petit guéridon à côté de son fauteuil, et à chaque tour, elle le regardait, malgré elle. On vint dire que les chevaux étaient mis. Comme le domestique sortait, elle se précipita sur la lettre de Lucien et l'ouvrit avec un mouvement de fureur, et sans s'être, pour ainsi dire, permis cette action. La jeune femme l'emportait sur la capacité politique. Cette lettre si froide mit Madame Grandet absolument hors d'elle-même. Nous ferons observer, pour l'excuser un peu d'une telle faiblesse, qu'à 26 ans qu'elle avait, elle n'avait jamais aimé. Elle s'était sévèrement interdit même ses amitiés galantes qui peuvent conduire à l'amour. Maintenant, l'amour prenait sa revanche. Et depuis 18 heures, l'orgueil le plus invétéré, le plus fortifié par l'habitude, lui disputait le cœur de Madame Grandet, dont la tenue dans le monde était si imposante et le nom si haut placé dans les annales de la vertu contemporaine. Jamais tempête de l'âme ne fut plus pénible. À chaque reprise de cette affreuse douleur, le pauvre orgueil était battu et perdait du terrain. Il y avait trop longtemps que Madame Grandet lui obéissait en aveugle. Elle était ennuyée de ce genre de plaisir qu'il procure. Tout à coup, cette habitude de l'âme et la passion cruelle qui se disputaient le cœur de Madame Grandet réunirent leurs efforts pour la mettre au désespoir. Quoi ? Voir ses ordres éludés, désobéis, méprisés par un homme ? Mais il ne sait donc pas vivre, se disait-elle. Enfin, après 2 heures passées au milieu de douleurs atroces, et d'autant plus poignantes qu'elles étaient senties pour la première fois, elle, rassasiée de flatteries, d'hommages, de respect, et de la part des hommes les plus considérables de Paris, l'orgueil crut triompher. Dans un transport de malheur, forcée par la douleur à changer de place, elle descendit de chez elle et monta en voiture. Mais à peine y fut-elle qu'elle changea d'avis. « S'il vient, il ne me trouvera pas !» se dit-elle. « Rue de Grenelle, au ministère de l'Intérieur » cria-t-elle au valet de pied. Elle osait aller chercher elle-même Lucien à son bureau. Elle se refusa à l'examen de cette idée. Si elle s'y fût arrêtée, elle se serait évanouie. Elle gisait, comme anéantie par la douleur, dans un coin de sa voiture. Le mouvement forcé imprimé par les secousses de la voiture lui faisait un peu de bien en la distrayant un peu. Chapitre 67. Quand Lucien vit entrer dans son bureau Madame Grandet, l'humeur la plus vive s'empara de lui. « Quoi, je n'aurai jamais la paix avec cette femme-là. Elle me prend sans doute pour un des valets qui l'entoure. Elle aurait dû lire dans mon billet que je ne veux pas la voir. » Madame Grandet se jeta dans un fauteuil avec toute la fierté d'une personne qui, depuis 6 ans, dépense chaque année 120 000 francs sur le pavé de Paris. Cette nuance d'argent saisit Lucien, et toute sympathie fut détruite chez lui. « Je vais avoir affaire, se dit-il, à une épicière demandant son dû. Il faudra parler clair et haut pour être compris. » Madame Grandet restait silencieuse dans ce fauteuil. Lucien était immobile, dans une position plus bureaucratique que galante. Ses deux mains étaient appuyées sur les bras de son fauteuil et ses jambes étendues dans toute leur longueur. Sa physionomie était tout à fait celle d'un marchand qui perd. Pas l'ombre de sentiments généreux, au contraire. L'apparence de toutes les façons de sentir âpre, strictement juste, aigrement égoïste. Après une minute, Lucien eut presque honte de lui-même. Oh, si Madame de Chastelet me voyait, mais je lui répondrais « La politesse déguiserait trop ce que je veux faire comprendre à cette épicière fière des hommages de ses députés du centre. Trop fière d'un bien mal acquis et gâtée par les lourds hommages de ses plats juste milieu, toujours à genoux devant l'argent » et fière seulement devant le mérite pauvre. je suis placé de façon à lui rendre son insolence pour tout ce qui n'est pas riche et bien reçu chez les ministres. » Lucien se rappela la façon dont elle avait reçu M. Koff, quoique présenté par lui. Presque en même temps, son oreille fut comme frappée du son des paroles méprisantes avec lesquelles elle parlait, il y a 8 jours, des pauvres prisonniers du Mont-Saint-Michel, et blessait aigrement les gens qui donnaient à la quête. Ce dernier souvenir acheva de fermer le cœur de Lucien. « Faudra-t-il, monsieur, lui dit Madame Grandet, que je vous prie de faire retirer votre huissier ?» Le langage de Madame Grandet ennoblissait les fonctions, suivant son habitude. Il ne s'agissait que d'un simple garçon de bureau, qui, voyant une belle dame à équipage entrer d'un air si troublé, était resté, par curiosité, sous prétexte d'arranger le feu qui allait à merveille. Cet homme sortit sur un regard de Lucien. Le silence continuait. « Quoi, monsieur ? » dit enfin Madame Grandet. « Vous n'êtes pas étonné, stupéfait, confondu de me voir ici ?»«
Je vous avouerai, madame, que je ne suis qu'étonné d'une démarche très flatteuse, assurément, mais que je ne mérite plus. »
Lucien n'avait pu se faire violence au point d'employer des mots décidément peu polis, mais le ton avec lequel ces paroles étaient dites éloignait à jamais toute idée de reproche passionné et les rendait presque froidement insultantes. L'insulte vint à propos renforcer le courage chancelant de Madame Grandet. Pour la première fois de sa vie, elle était timide, parce que cette âme si sèche, si froide, depuis quelques jours, éprouvait des sentiments tendres. « Il me semblait, monsieur, reprit-elle d'une voix tremblante de colère, si j'ai bien compris les protestations, quelquefois longues, relatives à votre haute vertu, que vous prétendiez à la qualité d'honnête homme. Puisque vous me faites l'honneur de me parler de moi, madame, je vous dirai que je cherche encore à être juste, et à voir, sans me flatter, ma position et celle des autres envers moi. Votre juste appréciative s'abaissera-t-elle jusqu'à considérer combien ma démarche de ce moment est dangereuse ? Madame Devèze peut reconnaître ma livrée.
C'est précisément, madame, parce que je vois le danger de cette démarche, que je ne sais comment la concilier avec l'idée que je me suis faite de la haute prudence de Madame Grandet, et de la sagesse qui lui permet toujours de calculer toutes les circonstances qui peuvent rendre une démarche plus ou moins utile à ses magnanimes projets.
Apparemment, monsieur, que vous m'avez emprunté cette prudence rare, et que vous avez trouvé utile de changer en 24 heures tous les sentiments dont les assurances se renouvelaient sans cesse et m'importunaient tous les jours.
Parbleu, madame, pensa Lucien. « Je n'aurai pas la complaisance de me laisser battre par le vague de vos phrases. »«
Madame, reprit-il avec le plus grand sang-froid, ces sentiments dont vous me faites l'honneur de vous souvenir ont été humiliés par un succès qu'ils n'ont pas dû absolument à eux-mêmes. Ils se sont enfuis en rougissant de leur erreur. Avant que de partir, ils ont obtenu la douloureuse certitude qu'ils ne devaient un triomphe apparent qu'à la promesse fort prosaïque d'une présentation pour un ministère. Un cœur qu'ils avaient la présomption, sans doute déplacée, de pouvoir toucher, a cédé tout simplement au calcul d'ambition, et il n'y a eu de tendresse que dans les mots. Enfin, je me suis aperçu tout simplement qu'on me trompait. Et c'est un éclaircissement, madame, que mon absence voulait essayer de vous épargner. C'est là ma façon d'être honnête homme. »
Madame Grandet ne répondait pas.
« Eh bien, pensa Lucien, je vais vous ôter tout moyen de ne pas comprendre. » Il ajouta du même ton. « Avec quelque fermeté de courage qu'un cœur qui sait aspirer aux hautes positions supporte toutes les douleurs qui viennent aux sentiments vulgaires, il est un genre de malheur qu'un noble cœur supporte avec dépit. C'est celui de s'être trompé dans un calcul. Or, madame, je le dis à regret, et uniquement parce que vous m'y forcez, peut-être vous êtes-vous trompé dans le rôle que votre haute sagesse avait bien voulu destiner à mon inexpérience. »
Voilà, madame, des paroles peu agréables que je brûlais de vous épargner. Et en cela, je me croyais honnête homme, je l'avoue. Mais vous me forcez dans mes derniers retranchements, dans un bureau. » Lucien eût pu continuer à l'infini cette justification trop facile. Madame Grandet était atterrée. Les douleurs de son orgueil eussent été atroces. Si, heureusement pour elle, un sentiment moins sec ne fût venu l'aider à souffrir. Au mot fatal et trop vrai de « présentation à un ministère », Madame Grandet s'était couvert les yeux de son mouchoir. Peu après, Lucien crut remarquer qu'elle avait des mouvements convulsifs qui la faisaient changer de position dans cet immense fauteuil doré du ministère. Malgré lui, Lucien devint fort attentif. « Voilà sans doute, se disait-il, comment ces comédiennes de Paris répondent aux reproches qui n'ont pas de réponse. » Mais malgré lui, il était un peu touché par cette image bien jouée de l'extrême malheur. Ce corps, d'ailleurs, qui s'agitait sous ses yeux, était si beau. Madame Grandet sentait en vain qu'il fallait à tout prix arrêter le discours fatal de Lucien, qui allait s'irriter par le son de ses paroles et peut-être prendre avec lui-même des engagements auxquels il ne songeait peut-être pas en commençant. Il fallait donc faire une réponse quelconque, et elle ne se sentait pas la force de parler. Ce discours de Lucien, que Madame Grandet trouvait si long, finit enfin, et Madame Grandet trouva qu'il finissait trop tôt, car il fallait répondre. Et que dire ? Cette situation affreuse changea sa façon de sentir. D'abord, elle se disait, comme par habitude, « Quelle humiliation !» Bientôt, elle ne se trouva plus sensible au malheur de l'orgueil. Elle se sentait pressée par une douleur bien autrement poignante. Ce qui faisait le seul intérêt de sa vie depuis quelques jours allait lui manquer. Et que ferait-elle après ? Avec son salon et le plaisir d'avoir des soirées brillantes où l'on s'amusait, où il n'y eut que la meilleure société de la cour de Louis-Philippe. Madame Grandet trouva que Lucien avait raison. Elle voyait combien sa colère à elle était peu fondée. Elle n'y pensait plus. Elle allait plus loin. Elle prenait le parti de Lucien contre elle-même. Le silence dura plusieurs minutes. Enfin, Madame Grandet ôta le mouchoir qu'elle avait devant les yeux. Et Lucien fut frappé d'un des plus grands changements de physionomie qu'il eût jamais vu. Pour la première fois de sa vie, du moins aux yeux de Lucien, cette physionomie avait une expression féminine. Mais Lucien observait ce changement et en était peu touché. Son père, Madame Grandet, Paris, l'ambition, tout cela en ce moment était frappé du même anathème à ses yeux. Son âme ne pouvait être touchée que de ce qui se passerait à Nancy. « J'avouerai mes torts, monsieur, mais pourtant, ce qui m'arrive est flatteur pour vous. Je n'ai en toute ma vie manqué à mes devoirs que pour vous. La cour que vous me faisiez me flattait, m'amusait, mais me semblait absolument sans danger. J'ai été séduite par l'ambition, je l'avoue, et non par l'amour. Mais mon cœur a changé. » Ici, Madame Grandet rougit profondément. Elle n'osait pas regarder Lucien. « J'ai eu le malheur de m'attacher à vous. Peu de jours ont suffi pour changer mon cœur à mon insu. J'ai oublié le juste soin d'élever ma maison. Un autre sentiment a dominé ma vie. L'idée de vous perdre, l'idée surtout de n'avoir pas votre estime, est intolérable pour moi. Je suis prête à tout sacrifier pour mériter de nouveau cette estime. » Ici, Madame Grandet se cacha de nouveau la figure et, enfin, de derrière son mouchoir, elle osa dire « Je vais rompre avec monsieur votre père, renoncer aux espérances du ministère, mais ne vous séparez pas de moi. » Et en lui disant ces derniers mots, Madame Grandet lui tendit la main avec une grâce que Lucien trouva bien extraordinaire. Cette grâce, ce changement étonnant chez cette femme si fière, c'était votre mérite qui en était l'auteur, lui disait la vanité. Cela n'est-il pas plus beau que de l'avoir fait céder à force de talent ? Mais Lucien restait froid à ces compliments de la vanité. Sa physionomie n'avait d'autre expression que celle du calcul. La méfiance ajoutait. « Voilà une femme admirablement belle, et qui sans doute compte sur l'effet de sa beauté. Tâchons de n'être pas dupes. Voyons, Madame Grandet me prouve son amour par un sacrifice assez pénible, celui de la fierté de toute sa vie. Il faut donc croire à cet amour. Mais doucement, il faudra que cet amour résiste à des épreuves un peu plus décisives et d'une durée un peu plus longue que ce qui vient d'avoir lieu. Ce qu'il y a d'agréable, c'est que, si cet amour est réel, je ne le devrai pas à la pitié. Ce ne sera pas un amour inspiré par contagion, comme dit Ernest. » Il faut avouer que la physionomie de Lucien n'était point du tout celle d'un héros de roman pendant qu'il se livrait à ses sages raisonnements. Il avait plutôt l'air d'un banquier qui pèse la convenance d'une grande spéculation. « La vanité de Madame Grandet, continua-t-il, peut regarder comme le pire des maux d'être quittée. Elle doit tout sacrifier pour éviter cette humiliation, même les intérêts de son ambition. Il se peut fort bien que ce ne soit pas l'amour qui fasse ses sacrifices, mais tout simplement la vanité. Et la mienne serait bien aveugle si elle se glorifiait d'un triomphe d'une nature aussi douteuse. Il convient donc d'être rempli d'égards, de respect. Mais au bout du compte, sa présence ici m'importune. Je me sens incapable de me soumettre à ses exigences. Son salon m'ennuie. C'est ce qu'il s'agit de lui faire entendre avec politesse. Madame, je ne m'écarterai point avec vous du système d'égards les plus respectueux. Le rapprochement qui nous a placés pour un instant dans une position intime a pu être la suite d'un malentendu, d'une erreur. Mais je n'en suis pas moins à jamais votre obligée. Je me dois à moi-même, madame. Je dois encore plus à mon respect, pour le lien qui nous unit, un court instant, l'aveu de la vérité. Le respect, la reconnaissance même remplissent mon cœur, mais je n'y trouve plus d'amour. » Madame Grandet le regarda avec des yeux rougis par les larmes, mais dans lesquels l'extrême attention suspendait les larmes. Après un petit silence, Madame Grandet se remit à pleurer sans nulle retenue. Elle regardait Lucien, et elle osa dire ces étranges paroles. « Tout ce que tu dis est vrai. Je mourrais d'ambition et d'orgueil. Me voyant extrêmement riche, le but de ma vie était de devenir une dame titrée. J'ose t'avouer ce ridicule amer. » Mais ce n'est pas de cela que je rougis en ce moment. C'est par ambition uniquement que je me suis donnée à toi. Mais je meurs d'amour. Je suis une indigne, je l'avoue. Humilie-moi. Je mérite tous les mépris. Je meurs d'amour et de honte. Je tombe à tes pieds. Je te demande pardon. Je n'ai plus d'ambition ni même d'orgueil. Dis-moi ce que tu veux que je fasse à l'avenir. Je suis à tes pieds. Humilie-moi tant que tu voudras. Plus tu m'humilieras, plus tu seras humain envers moi. » Tout cela, est-ce encore de l'affectation ? Se disait Lucien. Il n'avait jamais vu de scène de cette force. Elle se jeta à ses pieds. Depuis un moment, Lucien, debout, essayait de la relever. Arrivé à ses derniers mots, il sentit ses bras faiblir dans ses mains qui les avaient saisies par le haut. Il sentit bientôt tout le poids de son corps. Elle était profondément évanouie. Lucien était embarrassé, mais point touché. Son embarras venait uniquement de la crainte de manquer à ce précepte de sa morale, ne faire jamais de mal inutile. Il lui vint une idée, bien ridicule en cet instant, qui coupa court à tout attendrissement. L'avant-veille, on était venu quêter chez Madame Grandet, qui avait une terre dans les environs de Lyon, pour les malheureux prévenus du procès d'avril, qu'on allait transférer de la prison de Perrache à Paris par le froid, et qui n'avaient pas d'habit. « Il m'est permis, messieurs, avait-elle dit au quêteur, de trouver votre demande singulière. Vous ignorez apparemment que mon mari est dans l'état, et monsieur le préfet de Lyon a défendu cette quête. » Elle-même avait raconté tout cela à sa société. Lucien l'avait regardée, puis avait dit en l'observant, « Par le froid qu'il fait, une douzaine de ces gueux-là mourront de froid sur leur charrette. Ils n'ont que des habits d'été, et on ne leur distribue pas de couverture.
Ce sera autant de peine de moins pour la cour de Paris,
avait dit un gros député héros de Juillet. L'œil de Lucien était fixé sur Madame Grandet. Elle ne sourcilla pas. En la voyant évanouie, ses traits, sans expression autre que la hauteur qui leur était naturelle, lui rappelèrent l'expression qu'ils avaient lorsqu'ils lui présentaient l'image des prisonniers mourant de froid et de misère sur leur charrette. Et au milieu d'une scène d'amour, Lucien fut homme de parti.
« Que ferais-je de cette femme ? » se dit-il. « Il faut être humain, lui donner de bonnes paroles, et la renvoyer chez elle à tout prix. »
Il la déposa doucement contre le fauteuil. Elle était assise par terre. Il alla fermer la porte à clef, puis, avec son mouchoir trempé dans le modeste pot à l'eau de faïence, seul meuble culinaire d'un bureau, il humecta ce front, ses joues, ce cou, sans que tant de beauté lui donnât un instant de distraction.
« Si j'étais méchant, j'appellerais des bacs au secours. Il a dans son bureau toutes sortes d'eau de senteur. »
Madame Grandet soupira enfin.
« Il ne faut pas qu'elle se voie assise par terre. Cela lui rappellerait la scène cruelle. »
Il la saisit à bras le corps et la plaça assise dans le grand fauteuil doré. Le contact de ce corps charmant lui rappela cependant un peu qu'il tenait dans ses bras et qu'il avait à sa disposition une des plus jolies femmes de Paris. Et sa beauté, n'étant pas d'expression et de grâce, mais une vraie beauté sterling et pittoresque, ne perdait presque rien à l'état d'évanouissement. Madame Grandet se remit un peu. Elle le regardait avec des yeux encore à demi voilés par le peu de force de la paupière supérieure. Lucien pensa qu'il devait lui baiser la main. Ce fut ce qui hâta le plus la résurrection de cette pauvre femme amoureuse.
« Viendrez-vous chez moi ? »
lui dit-elle d'une voix basse et à peine articulée.
« Sans doute, comptez sur moi. Mais ce bureau est un lieu de danger. La porte est fermée, on peut frapper. Le petit débac peut se présenter. »
L'idée de ce méchant rendit des forces à Madame Grandet.
« Soyez assez bon pour me soutenir jusqu'à ma voiture. »«
Ne serait-il pas bien de parler d'entorse devant vos gens ?» Elle le regarda avec des yeux où brillait le plus vif amour.
« Généreux ami, ce n'est pas vous qui chercheriez à me compromettre et à afficher un triomphe. Quel cœur est le vôtre ?»
Lucien se sentit attendri. Ce sentiment fut désagréable. Il plaça sur le dossier du fauteuil la main de Madame Grandet qui s'appuyait sur lui, et courut dans la cour dire aux gens d'un air effaré
« Madame Grandet vient de se donner une entorse. Peut-être elle s'est cassée la jambe. Venez vite !»
Un homme de peine du ministère tint les chevaux. Le cocher et le valet de pied accoururent et aidèrent Madame Grandet à gagner sa voiture. Elle serrait la main de Lucien avec le peu de force qui lui était revenu. Ses yeux reprirent de l'expression, celle de la prière, quand elle lui dit de l'intérieur de la voiture
« À ce soir !»«
Sans doute, madame, j'irai savoir de vos nouvelles. » L'aventure parut fort louche aux domestiques, surpris de l'air ému de leur maîtresse. Ces gens-là deviennent fins à Paris. Cet air-là n'était pas celui de la douleur physique pure. Lucien se renferma de nouveau à clé dans son bureau. Il se promenait à grands pas dans la diagonale de cette petite pièce.
« Scène désagréable !» se dit-il enfin. « Est-ce une comédie ? A-t-elle chargé l'expression de ce qu'elle sentait ? L'évanouissement était réel, autant que je puis m'y connaître. C'est là un triomphe de vanité. Ça ne fait aucun plaisir. »
Il voulut reprendre un rapport commencé, et il s'aperçut qu'il écrivait des niaiseries. Il alla chez lui, monta à cheval, passa le pont de Grenelle et bientôt se trouva dans les bois de Meudon. Là, il mit son cheval au pas et se mit à réfléchir. Ce qui surnagea à tout, Ce fut le remords d'avoir été attendri au moment où Madame Grandet avait écarté le mouchoir qui cachait sa figure, et celui, plus fort, d'avoir été ému au moment où il l'avait saisie, insensible, assise à terre devant le fauteuil, pour l'asseoir dans ce fauteuil. Ah, si je suis infidèle à Madame de Chastelet, elle aura une raison de l'être à son tour.
Il me semble qu'elle ne commence pas mal, dit le parti contraire.
Peste ! Un accouchement ! Excusez du peu !
Mais puisque personne au monde ne voit ce ridicule, répondit Lucien piqué, il n'existe pas. Le ridicule a besoin d'être vu, ou il n'existe pas.
En rentrant à Paris, Lucien passa au ministère. Il se fit annoncer chez M. Devèze et lui demanda un congé d'un mois. Ce ministre, qui depuis 3 semaines ne l'était plus qu'à demi, et vantait les douceurs du repos, « otium cum dignitate », répétait-il souvent, fut étonné et enchanté de voir fuir l'aide de camp du général ennemi. « Qu'est-ce que cela peut vouloir dire ?» pensait M. Devèze. Lucien, muni de son congé en bonne forme, écrit par lui et signé par le ministre, alla voir sa mère, à laquelle il parla d'une partie de campagne de quelques jours.
« De quel côté ? » demanda-t-elle avec anxiété.
« En Normandie, » répondit Lucien, qui avait compris le regard de sa mère. Il avait eu quelques remords de tromper une si bonne mère, mais la question « De quel côté ?» avait achevé de les dissiper.
« Ma mère est Madame de Chastelet, » se dit-il.
Ce mot était une réponse à tout. Il écrivit un mot à son père, passa à cheval chez Madame Grandet, qu'il trouva bien faible, il fut très poli, et promit de repasser dans la soirée. Dans la soirée, il partit pour Nancy, ne regrettant rien à Paris et désirant de tout cœur d'être oublié par Madame Grandet. Chapitre 68. Après la mort subite de M. Leven, Lucien revint à Paris. Il passa 1 heure avec sa mère et ensuite alla au comptoir. Le chef de bureau, M. Reffre, homme sage, à cheveux blancs couronnés dans les affaires, lui dit, même avant de parler de la mort du chef, « Monsieur, j'ai à vous parler de vos affaires, mais, s'il vous plaît, nous passerons dans votre chambre. » À peine arrivé, « Vous êtes un homme et un brave homme. Préparez-vous à tout ce qu'il y a de pis. Me permettez-vous de parler librement ?»«
Je vous en prie, mon cher monsieur Reffre, dites-moi nettement tout ce qu'il y a de pis. »
« Il faut faire une banqueroute. »«
Grand Dieu, combien doit-on ? » ?»«
Juste autant qu'on a. Si vous ne faites pas banqueroute, il ne vous reste rien. » »«
Y a-t-il moyen de ne pas faire banqueroute ?»«
Sans doute, mais il ne vous restera pas peut-être 100 000 écus. Et encore, il faudra 5 ou 6 ans pour opérer la rentrée de cette somme. »«
Attendez-moi un instant, je vais parler à ma mère. » »«
Monsieur, Madame, votre mère n'est pas dans les affaires. Peut-être ne faudrait-il pas prononcer le mot de banqueroute aussi nettement. Vous pouvez payer 60% et il vous reste une honnête aisance. Monsieur, votre père était aimé de tout le haut commerce. Il n'est pas de petit boutiquier auquel il n'ait prêté 1 ou 2 fois en sa vie un couple de billets de 1 000 francs. Vous aurez votre concordat signé à 60% avant 3 jours. Même avant la vérification du grand livre.
Et, ajouta M. Reffre en baissant la voix, les affaires des 19 derniers jours sont portées à un livre à part que j'enferme tous les soirs. Nous avons pour 1 900 000 francs de sucre, et sans ce livre, on ne saurait où les prendre.
Et cet homme est parfaitement honnête, pensa Lucien. Monsieur Reffre, le voyant pensif, ajouta « Monsieur Lucien a un peu perdu l'habitude du comptoir depuis qu'il est dans les honneurs. Il attache peut-être à ce mot « banqueroute » la fausse idée qu'on en a dans le monde. Monsieur Van Peter, que vous aimiez tant, avait fait banqueroute à New York. Et cela l'avait si peu déshonoré que nos plus belles affaires sont avec New York et toute l'Amérique du Nord. » « Une place va me devenir nécessaire, » pensait Lucien. Monsieur Reff, croyant le décider, ajouta. « Vous pourriez offrir 40%. J'ai tout arrangé dans ce sens. Si quelque créancier de mauvaise humeur veut nous forcer la main, vous le réduirez à 35%. Mais, suivant moi, 40% serait manqué à la probité. Offrez 60%. Et Madame Leven n'est pas obligée de mettre à bas son carrosse. Madame Leven sans voiture. Il n'est pas un de nous à qui ce spectacle ne perça le cœur. Il n'est pas un de nous à qui monsieur votre père n'ait donné en cadeau plus du montant de ses appointements. » Lucien se taisait encore et cherchait à voir s'il était possible de cacher cet événement à sa mère. « Il n'est pas un de nous qui ne soit décidé à tout faire pour qu'il reste à madame votre mère et à vous une somme ronde de 600 000 francs. Et d'ailleurs, » ajouta Reffre, et ses sourcils noirs se dressèrent sur ses petits yeux, « quand aucun de ces messieurs ne le voudrait, je le veux, moi, qui suis leur chef. Et fussent-ils des traîtres, vous aurez 600 000 francs, aussi sûr que si vous les teniez. » « Outre le mobilier, l'argenterie, etc. »« Attendez-moi, monsieur, » dit Lucien. Ce détail de mobilier et d'argenterie lui fit horreur. Il se vit s'occupant d'avance à partager un vol. Il revint à Monsieur Reff après un gros quart d'heure. Il avait employé 10 minutes à préparer l'esprit de sa mère. Elle avait, comme lui, horreur de la banqueroute et avait offert le sacrifice de sa dot, montant à 150 000 francs, ne demandant qu'une pension viagère de 1 200 francs pour elle et 1 200 francs pour son fils. Monsieur Reff fut atterré de la résolution de payer intégralement tous les créanciers. Il supplia Lucien de réfléchir 24 heures. « C'est justement, mon cher Reff, la seule et unique chose que je ne puisse pas vous accorder. » « Eh bien, monsieur Lucien, au moins ne dites mot de notre conversation. Ce secret est entre madame votre mère, vous et moi. Ces messieurs ne font tout au plus qu'entrevoir des difficultés. » « À demain, mon cher Reffre. Ma mère et moi ne vous regardons pas moins comme notre meilleur ami. » Le lendemain, monsieur Reffre répéta ses offres. Il suppliait Lucien de consentir à la banqueroute en donnant 90% aux créanciers. Le surlendemain, après un nouveau refus, M. Reff dit à Lucien « Vous pouvez tirer bon parti du nom de la maison, sous la condition de payer toutes les dettes dont voici l'état complet, » dit-il en montrant une feuille de papier grand aigle chargée de chiffres, « avec condition de payer intégralement les dettes et l'abandon de toutes les créances de la maison, vous pourrez vendre le nom de la maison 50 000 écus peut-être. » Je vous engage à prendre des informations sous le sceau du secret. En attendant, moi qui vous parle, Jean-Pierre Reffre, et M. Gavardin, c'était le caissier, nous vous offrons 100 000 francs comptant, avec recours contre nous pour toutes sortes de dettes de feu M. Leven, notre honoré patron, même ce qu'il peut devoir à son tailleur et à son cellier. Votre proposition me plaît fort. J'aime mieux avoir affaire à vous, brave et honnête ami, pour 100 000 francs, que de recevoir 150 000 francs de tout autre, qui n'aurait peut-être pas la même vénération pour l'honneur de mon père. Je ne vous demande qu'une chose. Donnez un intérêt à Monsieur Koff. Je vous répondrai avec franchise. Travailler avec Monsieur Koff m'ôte tout appétit à dîner. C'est un parfait honnête homme, mais sa vue me cire. Mais il ne sera pas dit que la maison Reffre et Gavardin refuse une proposition faite par un Leven. Notre prix d'achat pour la session complète sera 100 000 francs comptant. 1 200 francs de pension viagère pour madame, autant pour vous, monsieur. Tout le mobilier, vaisselle, chevaux, voiture, etc. Sauf un portrait de notre sieur Leven et un autre de notre sieur Van Peters, à votre choix. Tout cela est porté dans le projet d'acte que voici, et sur lequel je vous engage à consulter un homme que tout Paris vénère et que le commerce ne doit nommer qu'avec vénération, M. Laffitte. Je vais y ajouter, dit M. Reffre en s'approchant de la table, « une pension viagère de 600 francs pour M. Koff. » Toute l'affaire fut traitée avec cette rondeur. Leven consulta les amis de son père, dont plusieurs, poussés à bout, le blâmèrent de ne pas faire banqueroute avec 60% aux créanciers. « Qu'allez-vous devenir une fois dans la misère ?» lui disait-on. « Personne ne voudra vous recevoir. » Leven et sa mère n'avaient pas eu une seconde d'incertitude. Le contrat fut signé avec messieurs Reffre et Gavardin, qui donnèrent 4 000 francs de pension viagère à Madame Leven, parce qu'un autre commis offrait cette augmentation. Du reste, le contrat fut signé avec les clauses indiquées ci-dessus. Ces messieurs payèrent 100 000 francs comptant, et le même jour, Madame Leven mit en vente ses chevaux, ses voitures et sa vaisselle d'argent. Son fils ne s'opposa à rien. Il lui avait déclaré que pour rien au monde, il ne prendrait autre chose que sa pension viagère de 1 200 francs et 20 000 francs de capital. Pendant ces transactions, Lucien vit fort peu de monde. Quelque ferme qu'il fût dans sa ruine, les commisérations du vulgaire l'eussent impatienté. Il reconnut bientôt l'effet des calomnies répandues par les agents de M. le comte de Beausobre. Le public crut que ce grand changement n'avait nullement altéré la tranquillité de Lucien, parce qu'il était saint-simonien au fond, et que si cette religion lui manquait, au besoin, il en créerait une autre. Lucien fut bien étonné de recevoir une lettre de Madame Grandet, qui était à une maison de campagne près de Saint-Germain, et qui lui assignait un rendez-vous à Versailles, rue de Savoie, numéro 62. Lucien avait grande envie de s'excuser, mais enfin il se dit « J'ai assez de tort envers cette femme, sacrifions encore une heure. » Lucien trouva une femme perdue d'amour et ayant à grand-peine la force de parler raison. Elle mit une adresse vraiment remarquable à lui faire avec toute la délicatesse possible la scabreuse proposition que voici. Elle le suppliait d'accepter d'elle une pension de 12 000 francs et ne lui demandait que de venir la voir, en tout bien tout honneur, 4 fois la semaine. « Je vivrai les autres jours en vous attendant. » Lucien vit que s'il répondait comme il le devait, il allait provoquer une scène violente. Il fit entendre que pour certaines raisons, cet arrangement ne pouvait commencer que dans 6 mois, et qu'il se réservait de répondre par écrit dans 24 heures. Malgré toute sa prudence, cette ennuyeuse visite ne finit pas sans larmes, et elle dura 2 heures et quart. Pendant ce temps, Lucien suivait une négociation bien différente avec le vieux maréchal ministre de la guerre, qui, toujours à la veille de perdre sa place depuis 4 mois, était encore ministre de la guerre. Quelques jours avant la course à Versailles, Lucien avait vu entrer chez lui un des officiers du maréchal qui, de la part du vieux ministre, l'avait engagé à se trouver le lendemain au ministère de la guerre, à 6h30 du matin. Lucien alla à ce rendez-vous, encore tout endormi. Il trouva le vieux maréchal, qui avait l'apparence d'un curé de campagne malade. « Eh bien, jeune homme, lui dit le vieux général d'un air grognon, sic transit gloria mundi. Encore un de ruiné. Grand Dieu, on ne sait que faire de son argent. Il n'y a de sûr que les terres, mais les fermiers ne paient jamais. Est-il vrai que vous n'avez pas voulu faire banqueroute et que vous avez vendu votre fonds 100 000 francs ?»« Très vrai, monsieur le maréchal. » J'ai connu votre père, et pendant que je suis encore dans cette galère, je veux demander pour vous à Sa Majesté une place de 6 à 8 000 francs. Où la voulez-vous ? Loin de Paris. Ah, je vois, vous voulez être préfet, mais je ne veux rien devoir à ce polisson de Devèze. Ainsi, pas de ça, la rirette. Ceci fut dit en chantant. Je ne pensais pas à une préfecture. « Hors de France, voulais-je dire. »« Il faut parler net entre amis, diable. Je ne suis pas ici pour vous faire de la diplomatie. »« Donc, secrétaire d'ambassade ?»« Je n'ai pas de titre pour être premier, je ne sais pas le métier. Attaché est trop peu, j'ai 1 200 francs de rente.
Je ne vous ferai ni premier ni dernier, mais second.
Monsieur le chevalier Leven, maître des requêtes, lieutenant de cavalerie, a des titres. Écrivez-moi demain si vous voulez ou non être second.
Et le maréchal le congédia de la main en disant « Honneur !»
Le lendemain, Lucien, qui pour la forme avait consulté sa mère, écrivit qu'il acceptait. En revenant de Versailles, il trouva un mot de l'aide de camp du maréchal qui l'engageait à se rendre au ministère, le même soir, à 9 heures. Lucien n'attendit pas. Le maréchal lui dit « J'ai demandé pour vous à Sa Majesté la place de second secrétaire d'ambassade à Capel. Vous aurez, si le roi signe, 4 000 francs d'appointement, et de plus, une pension de 4 000 francs pour les services rendus par feu votre père, sans lequel ma loi sur... ne passait pas. Je ne vous dirai pas que cette pension est solide comme du marbre, mais enfin cela durera bien 4 ou 5 ans, et dans 4 ou 5 ans, si vous servez votre ambassadeur comme vous avez servi de Vèze, et si vous cachez vos principes jacobins... C'est le roi qui m'a dit que vous étiez jacobin. C'est un beau métier qui vous rapportera gros. Enfin, bref, si vous êtes adroit, avant que la pension de 4 000 francs ne soit supprimée, vous aurez accroché 6 ou 8 000 francs d'appointement. C'est plus que n'a un colonel. Sur quoi, bonne chance. Adieu. J'ai payé ma dette. Ne me demandez jamais rien et ne m'écrivez pas.
Comme Leven s'en allait,
« Si vous ne recevez rien de la rue Neuve des Capucines d'ici à 8 jours, revenez à 9 heures du soir. Dites au portier en sortant que vous reviendrez dans 8 jours. Bonsoir. Adieu. »
Rien ne retenait Lucien à Paris. Il désirait n'y reparaître que lorsque sa ruine serait oubliée.
« Quoi ? Vous qui pouviez espérer tant de millions ?» lui disaient tous les négos qu'il rencontrait au foyer de l'Opéra. Et plusieurs de ces gens-là le saluaient de façon à lui dire « Ne nous parlons pas ». Sa mère montra une force de caractère et un esprit du meilleur goût. Jamais une plainte. Elle eût pu garder son magnifique appartement 18 mois encore. Avant le départ de Lucien, elle s'était établie dans un appartement de 4 pièces au 3e étage sur le boulevard. Elle annonça à un petit nombre d'amis qu'elle leur offrirait du thé tous les vendredis et que pendant son deuil, sa porte serait fermée tous les autres jours. Le 8e jour après la dernière entrevue avec le maréchal, Lucien se demandait s'il devait se présenter ou attendre encore. Quand on lui apporta un grand paquet adressé à Monsieur le chevalier Leven, second secrétaire d'ambassade à Capel. Lucien sortit à l'instant pour aller chez le brodeur commander un petit uniforme. Il vit le ministre, reçut un quartier d'avance de ses appointements, étudia au ministère la correspondance de l'ambassade de Capel, moins les lettres secrètes. Tout le monde lui parla d'acheter une voiture, et 3 jours après avoir reçu avis de sa nomination, il partit bravement par la malle-poste. Il avait résisté héroïquement à l'idée de se rendre à son poste par Nancy, Bâle et Milan. Il s'arrêta 2 jours avec délice sur le lac de Genève et visita les lieux que la nouvelle Héloïse a rendus célèbres. Il trouva chez un paysan de Clarence un lit brodé qui avait appartenu à Madame de Varins. À la sécheresse d'âme qui le gênait à Paris, pays si peu fait pour recevoir des compliments de condoléances, avait succédé une mélancolie tendre. Il s'éloignait de Nancy, peut-être pour toujours. Cette tristesse ouvrit son âme au sentiment des arts. Il vit, avec plus de plaisir qu'il n'appartient de le faire à un ignorant, Milan, Sarone, la chartreuse de Pavie, etc. Bologne, Florence le jetèrent dans un état d'attendrissement et de sensibilité aux moindres petites choses qui lui eût causé bien des remords 3 ans auparavant. Enfin, en arrivant à son poste, à Capel, il eut besoin de se sermonner pour prendre envers les gens qu'il allait voir le degré de sécheresse convenable. Fin du troisième et dernier volume.